CFORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CFORadio-TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 80 pays. Bonjour Damien.
Bonjour Richard.
Et Christophe Roth, directeur de mission chez EPSA. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous recevons Olivier Berthaud, CFO de Oco Hôtel. Bonjour Olivier.
Bonjour Richard.
Alors, vous êtes un Lyonnais, lui qui a passé sa jeunesse à Saint-Étienne, il faut quand même le vouloir. Alors, vous avez toujours été passionné par les chiffres, au point que, tout petit, vous lisiez même le journal financier.
Absolument. Alors, je le lisais pour la petite anecdote à l'envers, ce qui me faisait gentiment remarquer mon grand-père quand j'avais 5 ans.
Et c'est mignon.
Et ça a beaucoup fait rire la famille pendant quelques années, oui.
Alors, après une année au Mexique, dans le cadre de vos études, vous démarrez en audit financier au Luxembourg, chez EY. Pourquoi pas avoir continué après chez eux ?
Alors, pour tout vous dire, j'avais l'opportunité de continuer, mais je voulais m'inscrire vraiment au cœur de la stratégie financière et la décision de gouvernance des entreprises. Et autant l'audit, de mon point de vue, est une excellente formation, plutôt en troisième cycle, autant mon aspiration à ce moment-là était plutôt d'être au cœur de l'action plutôt que dans le contrôle a posteriori. Donc,
du coup, vous prenez un autre virage, celui des fusions-acquisitions, c'est ça ?
Absolument.
DC Advisory d'abord, et puis en créant ensuite votre propre entreprise. C'est quoi cette aventure ? Racontez-nous un peu.
Alors, c'était assez amusant. J'ai démarré ma jeune carrière chez DC Advisory, donc, qui est spécialiste du conseil en fusion-acquisition, plutôt sur le segment mid-cap. Et à l'issue de ma première année, il a été fait un spin-off de DC Advisory, d'une équipe qui est partie monter Easton Corporate Finance, qui depuis est devenue Clearwater International. Et donc, le projet et l'aventure entrepreneuriale me plaisaient énormément. Et donc, j'ai fait partie des tout premiers à rejoindre l'aventure. On était dans des petits bureaux chez Regus avec une imprimante sur les genoux et des ordinateurs qui sortaient tout droit du blister, donc c'était assez rigolo.
Comme quoi ça existe vraiment,
très challenging.
C'est pas que des storytelling.
Non,
c'est vrai,
ça existe vraiment.
Effectivement.
Et compris dans ce métier-là.
Vous rejoignez enfin votre premier client, celui qui a été votre premier client, Oco Hôtel. Alors c'est quoi Oco Hôtel ? Parce que tout le monde ne connaît pas, hein. C'est un peu nouveau, un nouveau venu quand même.
Absolument. Alors Oco Hôtel, c'est une jeune chaîne hôtelière. Alors on dit jeune parce que l'hôtellerie est le plus vieux métier du monde. Donc à l'échelle de l'histoire hôtelière, on a qu'une petite dizaine d'années. Et Oco Hôtel a surtout voulu dépoussiérer les codes de l'hôtellerie en étant un des pionniers de l'hôtellerie lifestyle. Donc en 2014, à l'époque où il y avait déjà Mama Shelter et Serge Trigano qui avaient initié le mouvement, on a été un des premiers acteurs à créer une hôtellerie qui misait avant tout sur l'expérience du client plutôt que de proposer simplement une chambre, un petit déjeuner aussi confort soit-il. Exactement.
D'accord. Très bien. Combien de salariés aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est 130 salariés. On a 12 hôtels, dont le 12e qui vient d'ouvrir en période Covid à Lille, 120 chambres. Et on continue à avoir des aspirations de croissance.
Eh bien, on va voir ça en détail. Damien ?
Alors, dites-moi, vous êtes plutôt dans la gestion hôtelière et pas dans la propriété foncière, j'imagine.
Là, absolument, on est exploitant hôtelier avant tout, d'accord. Pour notre propre compte et pour le compte de tiers.
D'accord, et là, vous n'avez pas de difficulté à convaincre le propriétaire avec ce nouveau style de management de l'hôtellerie, ça va ?
Alors, l'hôtellerie est assez nouvelle pour les investisseurs immobiliers, notamment les investisseurs immobiliers institutionnels. Pendant de longues années, les investisseurs institutionnels investissaient dans le bureau, dans du commerce, éventuellement dans de la logistique ou de la santé. Et depuis quelques années, les stratégies de diversification, en fait, qui sont de plus en plus intéressées à l'hôtellerie. Et dans ce cadre-là, on a un appétit qui, avant la crise du Covid, était chaque jour croissant pour cette classe d'actifs. Donc non, aujourd'hui, même si la crise du Covid est passée par là, on a un appétit qui reste très très fort pour l'hôtellerie.
D'accord, hyper intéressant. Et vous reprenez un peu d'anciennes marques d'hôtels pour refaire et relooker avec votre marque, c'est ça ?
Alors,
c'est vraiment du création ex nihilo ?
C'est de la création ex nihilo. C'est-à-dire que les 12 premiers, même les 13 premiers hôtels ont été faits ex nihilo, soit par création sur des bâtiments nus, des terrains nus. On a fait une transformation qui est notre hôtel de Lyon, qui était une ancienne annexe de la préfecture de police. Pourquoi ?
Oui, c'était assez.
Pourquoi on a fait ça ? Parce que on a, dans notre concept, à la fois par l'expérience qu'on produit en soft et ce qu'on propose en hard, des répartitions et des segmentations d'espace qui sont propres à notre marque. Oui. Donc pendant très longtemps, prendre un fonds de commerce existant, un bâtiment existant, avec des tailles de chambres existantes, c'était compliqué pour nous, d'une part à valoriser pour le vendeur et d'autre part à créer de la valeur pour nous. Donc il fallait installer la marque, on l'a fait sur la quinzaine de premiers hôtels. Et aujourd'hui, on peut se permettre d'acquérir un peu plus de flexibilité dans la gestion des espaces, maintenant que la marque est installée et reconnue.
D'accord. Donc, précurseur lifestyle, et peut-être un petit peu en RSE, si j'ai bien compris, en interne. Comment vous développez ça? Comment vous analysez ça? Parce que pour nous, enfin, on est un peu néophytes, hein, c'est-à-dire que c'est des choses qui arrivent, c'est difficile à calculer, des ratios. Donc, c'est bien d'avoir quelques tuyaux de quelqu'un qui en fait depuis un petit moment.
Absolument. Alors, depuis l'origine d'Oco Hotel, la RSE fait partie des premières lignes qui ont été écrites sur le concept et ce qui avait été imaginé à l'époque par Paul Dubrulle et Olivier Devis. La RSE, elle passe notamment, et c'est ce qu'on vient d'évoquer, par la création ex nihilo de projets, ce qui veut dire des bâtiments neufs, ce qui veut dire des bâtiments qui sont efficients en termes d'environnement, mais ça ne passe pas que par la gestion immobilière. On a également, dans l'exploitation de nos hôtels, une dimension RSE qui s'inscrit dans les actions de tous les jours. Sourcer des produits en local pour les petits déjeuners et pour l'apéritivo qu'on sert tous les jours. Ça va être avoir une approche très, entre guillemets, RSE de notre gestion sociale. Là aussi, les collaborateurs sont le nerf de la guerre de l'hôtellerie. C'est notre principal atout. Sans nos collaborateurs, on ne serait rien. Donc aujourd'hui, on apporte une attention toute particulière à nos collaborateurs. Donc on réfléchit chaque jour à qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour pas forcément en faire un label qui nous soit utile dans la communication et l'argumentation vis-à-vis des investisseurs, mais pour que ce soit vraiment vécu comme quelque chose d'efficace et comme quelque chose de cohérent.
Mais ce retour, en fait, d'impact des différentes actions, vous l'obtenez comment? C'est-à-dire avec des questionnaires, auprès des salariés, avec un comportement, avec des chiffres? Comment vous matérialisez l'impact d'une action type RSE?
Très bonne question. C'est vrai qu'on parle beaucoup de RSE, mais assez peu la manière avec laquelle on les mesure.
Ouais, c'est ça, hein.
Aujourd'hui, il y a des organismes qui sont de plus en plus nombreux et qui proposent des évaluations externes et donc indépendantes de l'efficacité, notamment environnementale, des bâtiments. Donc ça, c'est une approche qu'on fait. On fait mesurer par des organismes tiers pour avoir une idée de là où on se situe, et on se situe plutôt là où on voudrait être, même si par essence, l'hôtellerie est quand même quelque chose, un métier qui est assez consommateur de ressources. Et sur la gestion des salariés, évidemment qu'on les questionne très régulièrement sur leur bien-être, comment ils se sentent, comment ils se sentent développés dans la société et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire.
Donc encore un dialogue et un retour d'expérience. Dernière question, Covid, hein, compliqué. Il y a eu pour l'hôtellerie, ça dépend des hôtels, hein, mais là on est plutôt dans un lieu de passage, c'est-à-dire les professionnels qui bougent et pas dans le grand luxe de, entre guillemets, le tourisme en tout cas. Mais est-ce que vous avez pu négocier avec vos bailleurs des remises sur les loyers et bénéficier du fameux crédit d'impôt sur les loyers?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première, est-ce qu'on est impacté par le Covid? On est plutôt un concept qui a été imaginé pour la clientèle affaires.
C'est ça.
Ça, c'est vrai. Elle se prête aujourd'hui très bien à la clientèle loisir, puisqu'on a des emplacements qui font que la clientèle loisir vient naturellement chez nous.
Okay.
On a été néanmoins hyper lourdement impacté, ça c'est sûr, et on continue à l'être. Le déconfinement n'a pas encore porté ses fruits chez nous. Est-ce qu'on a été accompagné? Oui, on a été excessivement bien accompagné, et je pense qu'il faut le mentionner, que ce soit par l'État qui a déclenché les PGE en 3 semaines, enfin, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Les banques ont été au diapason, nos actionnaires ont été au soutien, tous nos fournisseurs, nos collaborateurs, nos propriétaires, nos bailleurs, ont des gens avec qui on a toujours eu de très bonnes relations. Et c'est un peu ça l'essence même d'Oco, à savoir de créer de la relation avec le client, créer des espaces de convivialité, mais aussi de le faire avec tous les partenaires avec qui on travaille. Les gens avec qui on travaille sont des gens avec qui on travaille depuis le début. qui sont ravis de nous accompagner, qu'on est ravis d'avoir à nos côtés. Et dans les cas de coups durs comme celui du Covid, ça nous a été bien utile puisque nos bailleurs nous ont accordé des remises très significatives sur les loyers, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans l'hôtellerie, exactement. Loin de là. On en est très fiers et on les remercie tous les jours. Et c'est pareil pour tous nos partenaires. Donc, on s'en réjouit et c'est vraiment les relations humaines sur lesquelles on a envie de continuer à miser.
Christophe.
Alors, vous êtes directeur financier d'une chaîne hôtelière, une petite, récente
petite chaîne hôtelière.
En pleine période de Covid, avec des taux d'occupation qui sont extrêmement faibles, les rentrées financières, elles sont aussi très faibles. Comment, finalement, on se projette sur des investissements à venir dans cette situation-là?
Alors, au 17 mars 2020, la projection sur les investissements n'était clairement pas la priorité. Il a fallu se concentrer sur trois choses. D'une part, préserver la santé et la sécurité des collaborateurs et des bâtiments, puisqu'aujourd'hui, fermer des hôtels et les laisser quelque part... Alors, il y a des systèmes de surveillance, mais sans surveillance pendant longtemps, c'est compliqué. Préserver le cash de la société, donc ça, c'est solliciter toutes les aides qui ont été mises à notre disposition. Et surtout, préparer la réouverture. Et préparer la réouverture, ça peut paraître un peu spécial quand on était parti pour un an et demi de Covid, mais ça veut dire deux choses. D'une part, être opérationnellement toujours à jour et faire en sorte que les collaborateurs seront présents le jour où...
Oui, il faut rassurer les collaborateurs et
exactement.
Les clients.
Exactement. Ouais. Les collaborateurs, on a fait le choix de, évidemment, solliciter l'activité partielle, mais de maintenir l'intégralité des salaires. C'était une décision qui a été coûteuse pour la société, mais qui a été un investissement qu'on a fait pour la suite, de manière à ce que quand on réouvre les hôtels aujourd'hui, on sait que l'intégralité des collaborateurs, ils sont toujours avec nous, hyper engagés dans la marque, hyper engagés...
Pour préserver le capital humain.
Absolument.
Dans votre parcours, il y a quelque chose moi, qui m'a sauté aux yeux, c'est que finalement, vous avez été nommé directeur financier à 28 ans, ce qui est quand même une belle réussite. Mais ça peut être aussi un challenge, finalement. Vous encadrez peut-être des équipes qui ont un âge plus important. Comment ça se passe, finalement, au quotidien?
Alors, c'est vrai que c'était assez jeune. Ça me paraît loin, maintenant. J'ai eu la chance d'intégrer, pour mon jeune âge, une entreprise qui était dans ses jeunes années,
oui.
Où, quelque part, j'ai intégré la société pour structurer la fonction financière. Donc... Ça a été un vrai challenge, mais probablement pas le même challenge que si j'avais récupéré la gestion d'une direction financière en place avec des collaborateurs de différents âges et donc une transition à assurer à ce niveau-là. Donc c'était un vrai challenge, mais qui a été facilité par le fait qu'on partait un peu d'une page blanche.
Il fallait tout construire, d'accord.
Christophe, une dernière question, oui. Je crois que vous vouliez la poser,
oui, une dernière.
Vous êtes un amateur, alors oui. Allez-y.
Alors non, effectivement, dans vos passions, je crois que vous avez vécu au Mexique, vous êtes amateur de plongée, le Mexique c'est magnifique pour les plongées, les cénotes, c'est un peu votre soupape de décompression, la plongée?
Absolument, c'est je pense une de mes passions premières, vous allez me dire que c'est pas la plus évidente quand on habite Paris, mais néanmoins on essaye de, et j'essaye de m'y adonner tant que je peux. Les cénotes sont clairement les plus beaux endroits dans lesquels j'ai plongé, donc j'en rêve encore chaque jour et je caresse là aussi un rêve un peu plus lointain d'un jour faire un tour du monde de destinations de plongée, puisque le Mexique en est une, mais l'Asie du Sud-Est a aussi beaucoup à proposer.
Pour voyager. Oui.
Il y a de quoi faire, effectivement. Pour terminer, je crois que vous êtes fan de l'OL, alors après avoir vécu à Saint-Etienne, vous êtes fou ou...
Oui, alors j'ai dû... aller au stade Geoffroy Guichard à l'époque, mais ce que je faisais, c'est que je portais un maillot des Verts pour fondre, mais généralement en dessous, mon cœur lyonnais portait un maillot de l'Olympique Lyonnais. Donc,
très bien, donc pas champion cette année, évidemment,
non.
Coupe d'Europe un jour ?
Une Coupe d'Europe l'année prochaine, ah soyons
bon,
confiants.
Bon. Merci Olivier, merci également à vous Damien et Christophe.
Merci à vous.
Fin de ce numéro de CFORadio.tv, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de CFORadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.